Salut Florence.
Salut Justine.
Comment ça va aujourd'hui?
Eh ben écoute, ça va, de retour de vacances, contente.
Cool, t'as bonne mine.
Merci,
c'est
toi
bien
aussi.
De t'accueillir au retour des vacances. Ça veut dire qu'il y aura plein de sourires et de positives attitudes dans tout ce qu'on va voir. Déjà, merci beaucoup d'être là. Merci de m'accorder du temps. Merci d'accorder du temps à celles et ceux qui vont écouter cet épisode. Parce que le parcours de Gobi, l'histoire derrière... Derrière ce projet, c'est assez fou et voilà, je suis très contente qu'on puisse en parler. Comment on s'est connues toutes les deux? Alors, je sais plus trop en réalité, on s'est reposé la question la dernière fois et je sais plus trop. Ce que je sais, c'est qu'on connaît Gobi avec brio depuis toujours, dans le sens depuis que ça existe. On n'était pas nombreux, on a à peu près le même âge, disons. On connaissait la gourde iconique Gobi, mais en fait, ce qu'on connaissait pas trop, c'est tout ce qu'il y avait derrière ce produit d'apparence si simple. On connaissait pas non plus votre histoire, on se connaissait pas personnellement. Ensuite, on a bossé avec Lorraine sur la sortie des plastiques jetables à Paris, où Gobi joue un rôle super important. On a rejoint ensemble un collectif, EC 2027. Ensuite, on s'est fait des déj. Ensuite, j'ai rejoint avec grand bonheur votre comité de mission. Et c'est là, on y est.
Voilà.
C'est le jalon du podcast. Donc, on va commencer facilement. C'est déjà ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et qui et quoi est Gobi.
Alors, c'est toujours la question simple et compliquée. Donc, je m'appelle Florence Bétinger, j'ai 46 ans. Je suis la maman de deux enfants, Elisa qui a 10 ans et Vadim qui a 6 ans. J'ai créé une entreprise qui est une entreprise à impact il y a 13 ans. Ça s'appelait pas encore comme ça. Mais j'y suis arrivée après un parcours de 10 ans en conseil où je cherchais à agir pour l'intérêt général et sur ces sujets et j'étais souvent frustrée. Et donc, je pense que le parcours d'entrepreneur avec toute la liberté de faire que ça permet m'a permis, moi, de bien m'aligner entre mes envies professionnelles et le sens que j'avais besoin de trouver.
Ok. Je me permets de rebondir sur un petit point. Ça veut dire quoi pour toi quand tu parles de servir l'intérêt général?
Quand j'y repense, en fait, le fil conducteur depuis toujours, je me voyais soit travailler pour une organisation internationale ou faire du plaidoyer dans une asso. J'ai un peu tourné autour de tout ça et c'est sûr que je me voyais pas marketer des shampoings, quoi.
Ouais.
J'avais besoin que ce soit un sujet plutôt politique, social, enfin voilà. Et après, j'ai toujours eu un peu de mal à être dans une logique vraiment très militante.
Ouais.
Je suis toujours un peu gênée parce que je comprends, il faut souvent simplifier les arguments pour convaincre. Et c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Et finalement, cette économie à impact, c'est mon mode d'activisme politique, concret.
Ouais.
Ça me va bien, en fait. Je suis à ma place, j'ai trouvé comment le faire.
Ça me fait beaucoup sourire, vous le voyez pas, peut-être vous le ressentez, mais parce que je me reconnais assez dans ce que tu dis. On n'a pas forcément les mots pour mener, nous, notre petit combat d'idées ou j'en sais rien, mais par contre, à travers l'action, à travers le projet, t'arrives à porter tes valeurs et c'est super. Ok, et du coup, Gobi, c'est quoi?
Donc, le point de départ de Gobi, la raison d'être, c'était de proposer une alternative au jetable. Et on est parti du jetable le plus courant, celui qu'on avait tous les jours dans les mains, dans les bureaux dans lesquels on travaillait, qui étaient les gobelets, plastique, carton, les bouteilles jetables. On s'est dit, tous les jours, qu'est-ce que ça doit représenter? On a trouvé les chiffres, on a trouvé ça effarant. On avait déjà une sensibilité écolo et pourtant on continuait, nous, à avoir ces pratiques et en sortant du bureau à acheter une petite bouteille pour prendre un train ou aller faire une heure de sport. Et quand on a commencé à interroger ça, on s'est dit, mais waouh, il y a un énorme sujet. À l'époque, il n'était pas très médiatique encore.
Ouais.
On n'y connaissait rien en marketing, produits, grand public. Et puis à l'époque, à les contrer, les bébés Évian qui rajeunissaient en buvant dans la bouteille, ça paraissait complexe. Mais par contre, on avait déjà, avec mes associés, 10 ans dans les pattes. Dans des entreprises, on avait un réseau pro. Mmh. Et en fait, on s'est dit, ça a été un peu le wow moment. On s'est dit, mais si on arrive à convaincre un employeur d'équiper 200 collaborateurs, 5000 collaborateurs, et si tout ça fait boule de neige, en fait, en termes d'impact et de changement, ça va être formidable. Et si en plus, on le fait par les entreprises, on a aussi un espace de communication et de mobilisation auprès des salariés qui est bien plus simple, bien moins onéreux et plus qualitatif que des campagnes grand public. Donc ça a été vraiment ça le déclic, le point de départ, de vouloir accélérer la transformation. On avait appelé ça « inventer une nouvelle façon de boire de l'eau ».
Ouais.
Et c'était vraiment sur cette idée d'accélérer la transformation de tes habitudes sur le jetable.
Ok. Et donc du coup, ça veut dire que vous êtes rentré en fait en, pour répondre à cette problématique-là à travers rendre un produit, c'est anodin, enfin voilà, la gourde le plus accessible et utilisé possible. Et donc vous avez construit vous toute l'entreprise sur cet objectif d'hydrater son produit de déchets, mais voilà, à travers en fait la production. Vous produisez, à travers la production de cette gourde, quoi.
Ouais.
Okay.
C'est ça aussi qui était assez excitant, c'était de se dire qu'on allait rentrer dans le design produit, comprendre comment ça marchait, et avoir cette idée de, on va provoquer un changement d'habitude directement par l'objet. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si, au lieu d'expliquer à quelqu'un plusieurs fois, etc., qu'il faut qu'il arrête, du jour au lendemain, on lui propose dans son entreprise, une bouteille réutilisable qui est hyper facile à amener à la fontaine, qu'on aura pensé pour qu'elle soit facile à porter du bout du doigt et pas t'encombrer les mains comme avant le gobelet dans lequel tu buvais 3 gorgées, etc. Mmh. On a vraiment pensé aussi UX, c'est-à-dire utilisateur, qu'est-ce qui va bien rendre service, rendre le truc le plus sympa, attractif possible et voir ce qui se passe à partir de là, en fait. Ça nous, intellectuellement et créativement, ça nous excitait pas mal. Ça nous paraissait évident qu'en fait, il fallait remplacer le jetable par quelque chose d'autre. Ça peut pas être dématérialisé, en fait, la fonction de boire. Et s'il y a bien un besoin qui restera toujours pertinent, c'est bien celui de s'hydrater. Et en plus, on est tous sous-hydratés, chroniquement. Bref, donc on s'est dit ça passe forcément par la proposition d'une bouteille réutilisable. À l'époque, il y avait une petite poignée de gens très écolo convaincus qui utilisaient leur gourde de randonnée sur un usage urbain, mais il y avait très peu de propositions de petites gourdes urbaines comme ça. Et donc c'est là-dessus qu'on a travaillé et assez vite on s'est dit mais comment on est sûr que c'est pas une fausse bonne idée? Comment on est sûr que ça va pas générer finalement plus de nuisances environnementales, la fabrication, l'usage, la fin de vie de ce type de produit que ce qui existait précédemment. Et du coup, c'est là où on a commencé à creuser, rencontrer tout un tas de gens. On était déjà dans une logique très écosystème, c'est-à-dire que on était allé rencontrer Serge Aurieux au VVF, Adélaïde Collin chez Greenpeace, on avait vu des éco-concepteurs qui venaient de finir le Grenelle de l'environnement, on avait vraiment Surfriders, enfin voilà, essayé de comprendre.
Tu peux nous mettre juste une date, parce que je crois qu'on ne dit pas, parce que ça, on se dit si c'est il y a 3 ans, l'écosystème y est là, sauf que c'était pas il y a 3 ans.
Non, c'était en 2010. C'est marrant parce qu'on en reparle souvent avec l'équipe de Surfrider Foundation, qui maintenant est une des assos les plus connues sur la lutte contre le jetable et la protection des océans et des eaux douces. Mais eux aussi, ils étaient 4,5, ils galéraient, ils étaient pas dans les sujets à la mode, donc ils avaient pas beaucoup de financement. Et on se retrouvait, on prenait des cafés et puis on se disait « allez, on y va », mais on était vraiment pas nombreux. Et donc sur cette histoire de comment je vérifie que c'est pas une fausse bonne idée, c'est vraiment de fil en aiguille. Je crois que c'est Serge Aurieux en fait qui m'a mis en relation avec Basil Gheorghiewski qui est décédé depuis. J'ai pensé à lui en passant là dans le 11e devant l'autre café. C'est là où je l'avais rencontré.
Ah,
c'était
une
rencontre humaine magnifique. Et c'est lui qui m'a expliqué ce que c'était que l'éco-conception. Lui, c'était un donc éco-concepteur. Donc c'est la première fois que j'entendais ce mot. On commençait à s'interroger en se disant est-ce qu'on va travailler sur du métal? Ça paraît pas être le matériau qui fonctionne le mieux, le verre, ça va pas être adapté. Est-ce qu'on peut se permettre de faire un produit écologique avec du plastique réutilisable? Et donc lui m'avait dit, mais quelle bonne idée d'utiliser un matériau qui a priori est sobre en fabrication, mais qui est une catastrophe en usage unique pour du réutilisable. Et donc il m'avait un peu déconstruit les idées reçues avec une approche comme ça d'évaluation environnementale. J'avais trouvé ça génial et il m'a mis en relation avec François-Xavier Ferrari et Anthony Boulle qui étaient en train de créer la coopérative MU en éco-conception. Et ça a été génial parce que toutes les structures éco-conception que j'avais contactée à l'époque n'intervenait que en aval. Mmh. C'est-à-dire une fois que toute la supply était mise en place, enfin toute ta chaîne de fabrication, pour l'auditer et te dire comment l'améliorer. Et je me disais, mais c'est stupide, on n'a rien fait.
Ouais, c'est clair.
Comment on peut intégrer ça?
C'est pas de l'éco-conception, du coup.
Voilà, c'est de l'amélioration continue, disons. C'est utile, ouais. Mais c'est vrai que, du coup, eux voulaient faire justement de l'éco-conception préventive, puisqu'on sait que 80% des impacts d'un produit, ils se déterminent au moment de la conception. Mmh. Évidemment, en fait, hein, en fonction de tes choix, matière, épaisseur, technique de fabrication, design, etc. Et donc voilà, et on a fini par rencontrer FX et Anthony qui voulaient travailler avec des entreprises plutôt voilà à impact et en éco-conception préventive. Donc le jour où on s'est eu au téléphone, c'était Noël quoi. Mm. C'était magique quoi parce que on avait envie des mêmes choses et eux ça leur a donné un projet sur lequel démarrer, qui est un projet qui raconte encore toujours beaucoup aujourd'hui dans leur formation.
Ouais, puis vous avez appris mutuellement. Enfin, tu vois, vous y êtes allés ensemble, quoi, comme une aventure aussi autour de l'éco-conception préventive.
Voilà, on a grandi ensemble. Je me rendais pas compte à quel point, à l'époque, on était pionniers sur ces sujets. Ça, tellement pionniers que quand on a contacté l'ADEME pour nous aider à financer les études d'éco-conception, ils ont participé à notre groupe de travail pendant plusieurs mois pour en faire aussi une étude de cas. Je voulais aussi qu'on intègre la partie principe de précaution, santé des matériaux. Mmh. Et ça, pareil, aucune structure, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui malheureusement, ne peut t'accompagner en fait en conception produit, en associant tout ce qui va être important en termes de prise en compte de l'utilisateur final, ses besoins fonctionnels, prise en compte des dimensions environnementales, santé du consommateur, et puis bon, bah, je pense que maintenant il faut intégrer aussi l'aspect social, donc qui va fabriquer ou comment, etc.
C'est clair.
Et du coup, c'est vrai que développer du produit comme ça, ça devient passionnant en fait, quand t'es pas juste ok, qu'est-ce que veut le marché et qu'est-ce qui va coûter le moins cher à fabriquer et comment on va le marketer à bloc pour que tout le monde en veuille au moins pendant un an, tu vois.
Après ça, c'est un pari quand on t'écoute. C'est un pari que vous avez fait aussi depuis le début, c'est-à-dire bon, Gobi, c'est un impact, une raison d'être forte, enfin, qui est de lutter contre l'usage unique et de changer les comportements à travers le produit, comme tu l'as dit, avec un produit d'entrée emblématique qui est du coup la bouteille réutilisable, la gourde, voilà. Et votre canal aujourd'hui de distribution sur lequel vous avez parié pour une question de aller toucher plus de gens, c'est de rentrer par les entreprises et équiper en fait les salariés, les partenaires, etc. Et en fait, vous avez quand même, malgré cette chose assez simple qui une entreprise qui a une chaîne de production, voilà, vous avez tout de suite intégré une vision assez globale et systémique, c'est-à-dire que vous faites quand même un peu de plaidoyer, vous avez créé aussi, je sais plus si c'est une app et un site, mais avec les points d'eau, vous mettez beaucoup en avant la consommation de l'eau du robinet. Enfin, en fait, depuis le début, moi, je sais que qu'il y a quelque chose qui m'avait aussi vachement surprise. C'était le fait que vous ayez des personnes au sein de l'équipe qui soient dédiées à ces sujets-là, dans une équipe d'une dizaine de personnes, en tout cas dans le siège, quoi. Donc ça, voilà, c'est un pari que vous avez fait quand même. Certes, on produit et on change à travers les produits, mais en fait, on a une approche qui est globale et intégrée et vous agissez partout, quoi.
En fait, notre sujet, franchement, ça a jamais été de vendre un produit.
Ouais.
C'est pas notre sujet.
Ouais.
C'est pas moi. Je me définis pas comme je fabrique et je vends des gourdes.
Ouais.
En fait, c'est pas mon sujet. Ce qui nous plaisait, c'était d'avoir un projet de transformation des habitudes avec une dimension politique, sociale. Voilà. Enfin, ce qui est innovant, c'est ça chez Gobi, en fait. Et c'est vrai qu'on vient plutôt... On a une culture plutôt politique avec mes associés. Et c'est comme ça qu'on l'a mené, mais sans vraiment, si tu veux...
Oui, sans l'écrire...
Non, c'était pas théorique, en fait. On y est allé comme on le pensait. On s'est dit, OK, c'est super d'équiper les gens avec des gourdes. Mais en fait, la galère, c'est que dès qu'on sort dans la rue, c'est beaucoup plus facile. Je dis toujours ça, mais de trouver presque de l'eau de Fidji, tu vois, que de trouver de l'eau du robinet alors qu'elle est partout sous nos pieds, ce qui est complètement stupide, en fait. Et donc, très vite, dès 2011, on a fait une app qui s'appelle Debut Open, maintenant qui s'appelle Free Taps, qui référence tous les points d'eau, en tout cas ceux qu'on pouvait trouver en open source. Et après, on a écrit à plein de communes en France qui nous envoyaient des fax avec des points longitude, latitude, qu'il fallait se galérer à rentrer dans le truc. Et puis, il y a une poignée de geeks qui ont commencé à s'emparer de l'appli et qui, en allant se balader, en faisant de la course à pied ou quoi, ont rajouté des fontaines. Ouais. Donc voilà, ça vit tout seul, on n'a aucun moyen à mettre dessus, mais en tout cas, on a un peu
kickstarté le truc. C'est la fontaine, quoi.
Ouais, après c'est bien, maintenant il y a de plus en plus d'applis, et notamment je sais que Paris ont réussi à faire reprendre les points sur Google Apps, sur Mapster, et c'est super, en fait il faut que ce soit partout. Voilà, donc mais très vite on a pensé ça, et effectivement le côté aussi écosystème, de se dire ok, tu convaincs les gens d'avoir une gourde, s'ils ont peur de l'eau du robinet, qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans en fait ?
Et puis s'ils balancent leur gourde deux jours après.
Exactement, donc il y a toute une éducation aussi à faire, ça j'avais sous-estimé ça. Une éducation sur la façon de laver, par exemple, nous, ça a été l'obstacle principal de « Ah ben oui, mais moi, je l'ai eu il y a 3 jours, mais je trouve que ça sent mauvais, donc je m'en sers plus. » Je dis « Mais en fait, il faut le rincer. » Et c'était « Ah bon ?» Et donc, il y a aussi, quand tu es dans l'espace travail, des habitudes qui sont plus les mêmes qu'à la maison. C'est-à-dire, ce qui te paraît évident, que tu vas pas jeter une assiette en carton tous les jours, au boulot, laver ta tasse ou ta gourde, c'est un effort surhumain, en fait. Et tu as tous les gens qui bossent en office management, etc., qui me disent « Mais vous imaginez même pas à quel point les gens se comportent comme des enfants mal élevés au bureau. » Tu sais, ce truc de dire « j'ai renversé mon café », c'est bon, oh, c'est quand même pas à moi de le nettoyer. Ouais. C'est fou.
Oui, il n'y a pas d'appropriation de l'espace travail, quoi. Enfin, c'est pas chez moi. Donc,
c'est incroyable.
Ouais, c'est marrant. Ça crée des flemmes, en fait, je pense aussi, une espèce de truc. Je sais pas, t'es pressé, tu penses à tes mails, à tes... Oh, pff, non, je vais pas nettoyer mon mug, je le ferai plus tard.
Ou ouais, tu te justifies. Ouais, je me rappelle, dans un cabinet d'avocat, elle me disait « mais je retrouve des tasses en porcelaine dans les poubelles ». Un peu du type, je suis tellement important et mon temps est tellement important que je peux pas me consacrer du temps à ça.
Je suis pas au bureau pour faire la vaisselle, quoi.
Voilà. Et du coup, t'avais aussi quand même un truc un peu générationnel au début sur Gobi où, voilà, t'avais quand même des mecs de pouvoir un peu plus âgés pour qui c'était totalement déchoir, quoi. Ouais, c'était incroyable. Enfin, les clientes me racontaient des trucs trop drôles. Ouais. Enfin.
Non, mais en fait, c'est assez fou. Enfin, on va pas revenir là-dessus, mais tu vois, la place de la gourde et de la bouteille réutilisable, et comme tu me dis, mais je pense même dans le domaine public, tu vois, même dans les conférences de presse et tout, je pense que c'est des, tu vois, même au niveau des médias, de la communication, c'est un produit qui commence aussi à prendre sa place et c'est plutôt positif, quoi.
Alors ça, faut quand même se le souligner, parce que moi, je l'ai vu arriver. Ouais. Honnêtement, il y a 10 ans quand on a commencé cette croisade, de s'imaginer qu'en 2020 il y aurait la loi AGEC qui interdirait le jetable, la distribution gratuite de petites bouteilles d'eau, qu'il y aurait une telle prise de conscience collective, que la gourde deviendrait un objet à la mode. Alors voilà, on peut discuter de ça, et je pense qu'on est dans une phase un peu intermédiaire, assez encore immature. Ouais. Mais c'est pas grave, il faut en passer par là. Mais moi, au moins, je me dis, voilà, sur les 10 dernières années, j'ai vu un usage se transformer. Pas assez, parce que les stats de vente des bouteilles d'eau sont encore dingues. Donc je me dis, vous êtes un Français sur deux à avoir des gourdes, arrêtez à la plage de vous acheter de l'eau en bouteille. Il va falloir s'en servir.
Après, je pense que ça rejoint ce que tu disais sur l'accès aux fontaines, en fait.
Aussi.
Tu vois. Enfin, je veux dire, à la plage, tu veux remplir ta gourde.
Ouais. Mais bon, ce réflexe de se dire « Ok, en fait, je vais en mettre 2 dans le congélo avant de partir et je vais les mettre dans mon sac de plage. Et mon sac de plage, je vais m'assurer juste que ma gourde, elle est au fond du sac, protégée du soleil. » C'est pas compliqué, en fait.
Ouais. Je vais revenir maintenant sur un peu la structure et un peu les choix que vous avez fait chez Gobi. Hormis là tout ce qu'on vient de parler sur sur le fond, il y a un sujet quand même organisationnel chez vous. Donc on disait Gobi, ça fait 13 ans que ça dure. Vous êtes autonome structurellement. Il n'y a pas eu de levée de fonds. Vous n'êtes pas une start-up. Vous évoluez progressivement. Donc ça, c'est un point commun qu'on a avec Circulab et dont on est assez fiers. Et je crois que c'est des questions qu'on se pose mutuellement, mais c'est, je crois, une fierté aussi partagée, ce statut un peu de entreprise indépendante, quoi. Et vous êtes aussi, donc tu disais entreprise à impact, mais vous êtes maintenant une entreprise à mission. Vous créez plus de 50 emplois, dont beaucoup en insertion. Et du coup, tu nous as un petit peu raconté l'histoire, comment vous en êtes arrivé là. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette question de mission. C'est un choix qui est très affirmé. Qu'est-ce que ça change, déjà être une entreprise à mission au sens juridique, puisque ça devient un élément, ça devient quelque chose qui est reconnu par la loi, mais aussi dans le quotidien. Et enfin voilà, pourquoi entreprise à mission qu'est-ce que ça change, quoi?
Alors, on avait changé une première fois nos statuts quand on a eu l'agrément ESUS.
Qui est l'agrément, pour tout ce qui est économie sociale et solidaire.
Oui, c'est ça. Qui est plus exigeant, presque, que celui d'entreprise à mission, mais avec la réflexion qu'on s'était faite de se dire, depuis le début, on fonctionne comme ça, honnêtement, par bon sens. Ouais. Bon sens pour les gens qui partagent nos valeurs, qui est que peut-être on va pas passer notre vie à chercher que à s'enrichir comme des fous aux dépens de tout le reste et des autres et de la nature. Bref, donc on s'est dit ok, en fait on correspond déjà à tout. Il y a peut-être 2-3 phrases à rajouter dans nos statuts sur l'objet social et environnemental, la manière d'affecter nos résultats, nos bénéfices quand il y en a, l'écart de salaire dans l'entreprise qui était déjà de toute façon inférieur à ce qu'exigeait l'agrément ESUS. Donc on avait fait ça, voilà. Et après on s'est dit, le mouvement des entreprises à mission, c'est quand même quelque chose qui nous correspond depuis le début. Ça serait bien qu'on formalise les choses. Et moi je suis partie un peu en me disant, en fait ça va être juste une formalisation de ce qu'on fait depuis toujours. Et alors, en fait, ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que on en a profité pour refaire ce qu'on avait fait au début, c'est-à-dire avoir un vaste questionnaire auprès de notre écosystème au sens très large. Mmh. On a énormément de clients. Enfin, depuis 10 ans, on a dû équiper plus de 15 000 entreprises. D'autres partenaires qui sont des revendeurs. On a tout l'écosystème des gens engagés dans l'entreprise impact, les associatifs, etc., les fournisseurs. Enfin, on a vraiment été 360. Pour leur poser des questions sur ce sur quoi ils nous trouvaient bons, ce sur quoi ils nous attendaient, etc. Donc ça, c'est hyper riche.
Et c'est un temps qu'on prend rarement.
C'est génial. Aussi, et surtout, même les gens les plus bavards qui te disent « Ouais, désolé, là, j'ai été un peu cash. » Non, mais merci, c'est caviar, c'est super, quoi. Donc, il y a eu toute cette partie-là. Et puis après, ce travail de formalisation de la mission en interne, je pensais pas que ce serait si compliqué. C'est aussi de se dire, ok, il y a ce qu'on fait depuis le début, qu'est-ce qui est très restrictif mais très précis, qu'est-ce qui va ouvrir un champ pour les années à venir, etc. Et c'est en se posant de cette question qu'on a formulé notre mission et que vraiment, ça a permis de fixer un cap hyper clair pour le développement de Gobi. C'était au même moment, en fait, où on retravaillait la structuration de l'équipe avec un système de codev où sont associés tous les responsables d'équipe bien au-delà du codir sur tous les sujets de développement, où on avait mis en place l'approche OKR où chacun du coup définit ses objectifs, ses résultats clés pour l'année. Et du coup, on a aligné tout ça, le cap hyper clair qui ensuite est sous-tendu par les 5 engagements qu'on a aussi mis dans nos statuts du coup, qui sont un petit peu plus le comment au-delà du pourquoi. Et après, du coup, tu déroules ta stratégie annuelle et tu t'assures que tout cliquette bien avec ta mission, tes objectifs et comment ça va y répondre. Et après, chacun dans l'équipe, sur sa partie, nous, on a des métiers hyper différents chez Gobi. Tu vois, ça va effectivement du plaidoyer à la logistique solidaire dans les AT, à la construction de la supply, etc. Donc, chacun, comment il s'approprie les sujets et dans chacun de ces chantiers pour faire avancer la boîte, comment il intègre aussi à chaque fois nos ambitions écologiques et sociales. Donc en fait, moi je trouve que c'est un gros travail, mais ça te permet de fixer un cadre hyper clair, qui est hyper clair pour toute l'équipe aussi. Ça c'est Gobi, ça c'est pas Gobi.
Voilà. Les choix en fait, c'est un outil d'aide à la décision aussi.
Exactement, et je pense que pour aller vers des logiques d'entreprise plus libérées, bon c'est un peu tarte à la crème le mot, mais en tout cas, ce que je ressens moi et ce dans quoi je prends du plaisir aujourd'hui en management et en structuration de l'entreprise, c'est le travail des fondateurs et de l'équipe dirigeante, c'est vraiment d'arriver comme ça à bien structurer le cadre et la vision pour qu'ensuite chacun ait l'espace sur son métier pour proposer, savoir où il va, comment et gérer, savoir de qui il a besoin dans son équipe, de quelles compétences extérieures et tout. Et ça, c'est génial. parce que c'est tellement plus riche que quand toi t'essayes d'avoir tout dans la tête et que tu l'as pas posé, donc c'est flou.
Ouais.
Donc c'est flou pour les autres, ouais, qui sont tout le temps en train de te demander où on va, qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Là, wow, ça nous a mis des ailes.
Ouais, donc en fait, et quand tu dis nous, c'est, j'imagine vous en tant que cofondateur, mais enfin, moi ce que je comprends là dans ce que tu dis, donc t'as le cap, ça soude énormément, etc. Et en plus, ça rend beaucoup plus autonome, proactif, quand le cap est clair et que l'intention est là. Voilà, on prend peut-être plus de risques et vous, ça vous décharge aussi de ce qu'on vient de dire, à savoir de toute cette prise de décision que d'habitude on appelle voilà.
Voilà, il y a des questions qui se posent pas, ouais, parce que de toute façon c'est pas nous, ouais, et voilà. Puis après, bah, c'est tout le travail de traduction de cette mission en stratégie. Nous maintenant, on fait plutôt des stratégies annuelles parce, ouais, que vu le monde dans lequel on vit,
voilà. Ça va tellement vite.
Voilà, et puis du coup de prendre le pouls de l'équipe aussi pour dire ok, là on s'était fixé ça comme ambition, on a mis plus de temps là-dessus, c'était plus compliqué, ouais, que ce qu'on avait imaginé. Là, ce serait un peu risqué d'engager ça dès ce trimestre. Ok, ouais, bah voilà comment on arbitre et puis on se remet ça l'année prochaine pour être en confort. Et enfin, ouais, c'est voilà, on arrive à un moment là, je trouve, de travail collectif qui est super intéressant et déchargé pour le dirigeant comme ça, en partageant de manière très claire, en formulant la vision, les objectifs, etc. Bah c'est génial, hein, parce que, ouais, c'est une charge mentale d'être tout le temps que tu partages en fait.
Ouais. Et en fait, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup. Je vais volontairement du coup commencer à parler de ça, mais là, de ces 20 premières minutes d'échange. Il y a un truc dont tu parles pas, mais volontairement aussi je t'ai pas emmené là-dessus, mais c'est le client, non pas que ce soit un truc dont tu te fiches, mais en fait souvent sur ces sujets-là de d'impact, de mission, ce qui va ressortir c'est réglementaire parce que je suis obligée ou parce que voilà, ou bah oui, mais comme ça permet de répondre aux demandes du client qui veulent des choses plus responsables. Et en fait là, ce que j'aime beaucoup dans tout ce que tu es en train de dire, c'est qu'en t'écoutant, en fait, ça coule de source que ça a du sens d'être entreprise à mission, ou en tout cas d'être engagé, qu'on devienne entreprise à mission ou pas, mais d'avoir ce cap et cet impact d'un point de vue des équipes, d'un point de vue de la pérennité de la structure organisationnelle, d'un point de vue de la motivation, d'un point de vue aussi de la prise de décision et des choix stratégiques. Et en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que ça permet un petit peu aussi de relativiser en disant bah alors oui, certes, j'imagine que ça doit avoir un impact positif quand les clients ils se retrouvent face à une gourde produite en Chine, machin, et
il y a une proposition de valeur, voilà, pour le client, je pense, qui est lisible, voilà, claire, et qui en plus effectivement est sanctuarisée,
ouais,
dans les statuts, et ouais, voilà, et donc ouais, je pense que c'est
important.
Bon, mais je pense que les clients déjà ils nous faisaient confiance, ils, ouais, savaient que voilà. Et la raison pour laquelle ils nous choisissent, clairement, c'est pour notre proposition de valeur, ouais, qui est tout entière en fait encapsulée, ouais, dans la mission. Et je trouve que quand on a formulé notre mission, il y a évidemment cette partie d'accélérer la bascule vers le réutilisable, mais on a mis en mobilisant positivement les organisations. Donc on les a au cœur de notre modèle d'impact. On leur dit toujours aux clients en fait tous les ans quand on leur écrit, etc. C'est en fait on est rien sans vous. Nous, on s'assure de vous mettre dans les mains des choses qui ont été bien faites, bien pensées, avec une forme de sobriété de fabrication, pour pas que la dette, quand vous l'achetez, elle soit trop forte. Et après, dans l'usage, dans comment ça va être adopté, combien de temps, etc., c'est vous qui faites tout, c'est vous le client entreprise, et puis après l'utilisateur final. Donc, ça nous fait aussi réfléchir dans toutes nos stratégies à qu'est-ce qu'on apporte de plus en plus, de mieux en mieux. Enfin, tu vois, c'est des questions qu'on s'est posées là au comité de mission.
Ouais.
Et du coup, là où c'est fantastique, c'est quand t'as les axes qui vont te permettre de développer, de faire de la croissance dans ton entreprise, matchent avec une proposition de valeur de plus en plus intéressante pour le client, parce que moi, je veux aussi les accompagner dans leur maturité. On a fait émerger ce sujet, on a commencé à les mobiliser.
Ouais.
Aujourd'hui, on voit que c'est adopté, mais nous, parfois, on est un peu frustrés. On aimerait que ce soit plus carré. Et c'est comme ça qu'on veut continuer à les faire grandir.
Ouais.
Et les clients, ils apprécient ça.
Ouais.
Enfin, déjà, enfin, on les prend pas pour des cons, en fait. On les respecte.
Ouais.
Et on a envie de faire avec eux.
Ouais.
Donc, c'est là où ça se retrouve, en fait. C'est la proposition de valeur, je pense, qui est claire, lisible. Et ils sont au cœur de cette proposition de valeur.
Je vais parler maintenant, je vais revenir juste, j'ai encore trois questions, surtout sur, là en tant qu'entrepreneur, ça peut être assez rapide comme réponse ou pas, tu choisis, mais là je m'adresse donc plutôt à l'entrepreneur, entrepreneuse, en tout cas à toi qui a créé une entreprise. Si là tu rencontres un dirigeant qui est dans une boîte qui est pour le coup qui a pas fait d'éco-conception préventive, qui a déjà des produits sur le marché, quelle qu'il soit, une structure voilà type PME disons, qui veut se transformer, quels seraient un petit peu toi les principaux enseignements ou les principaux conseils que tu donnerais à cette personne pour l'aider ou l'accompagner dans sa transformation, évolution.
Je pense qu'il faut enfin, aujourd'hui, là, on se parle en 2023, faut quand même interroger l'utilité de ce que tu fais, en fait. Ouais. Est-ce que la proposition qui est la tienne a toujours un sens? Et si la réponse est non ou bof, de se dire, ok, mais peut-être que tout ce que je sais faire, tout mon savoir-faire, j'en sais rien, si c'est pour le chauffage individuel dans la maison, l'habitat, tu vois, bon, exactement. Et du coup, moi, je trouve ça assez génial si la réponse est non, de se dire ok, comment on va continuer à rendre ce service, répondre à ce besoin, à cet usage, mais en prenant en compte la donne qui est celle d'aujourd'hui, qui est qu'effectivement, maintenant, ok, ça va, on le sait, on n'est pas dans une planète avec des ressources infinies, on dépasse beaucoup, du coup, ça pue pour tout le monde, dans la rue, pour nos gamins, machin, etc. Du coup, de se dire, je dois répondre encore à des besoins de mobilité. Moi, je suis pas là en train de me dire qu'il y a des secteurs entiers qui devraient disparaître. Mais au contraire, vous avez un savoir-faire incroyable. Comment on le transforme vers la sobriété, une nouvelle façon de répondre à l'usage. Tu vois, j'ai participé à The Arch, qui était une sorte de séminaire embarqué sur un bateau, là où il y avait des gens très différents. Et j'ai rencontré des gens qui fabriquent des bateaux de plaisance. Ouais. Mais les enjeux auxquels ils sont confrontés, ils sont géniaux, en fait, en termes de design. Ils se disent, est-ce que ça a encore un sens? Les gens, ils utilisent leur bateau un jour par mois, en moyenne, ou par an, je crois. C'est dingo. Ça leur coûte un bras de le posséder. Comment on les fait évoluer pour... Enfin, tu vois, bref. Ouais. Donc, de le prendre par... Et c'est comme ça qu'il faut qu'on prenne tout. De pas le prendre par le biais du truc assommant et risqué, etc. Mais de le prendre par le biais de l'enthousiasme qui va aussi motiver à mort toutes les équipes.
Ouais, de qu'est-ce qu'on sait faire plutôt que qu'est-ce qu'on fait, quoi. Qu'est-ce qu'on sait faire en termes de compétences, de savoir-faire, d'expérience, d'expertise.
Ouais. Et comment on va le faire avec les nouveaux enjeux? Ouais. Mais c'est cool, ça rend plus créatif, ça change. Enfin, moi, par exemple, je déteste faire tout le temps pareil. Enfin, je sais pas toi, mais c'est l'enfer, quoi. Donc c'est trop bien d'être challengé. Et en plus, moi je trouve qu'on est fort quand il y a de la contrainte. Ouais. C'est vachement bien d'avoir des contraintes. Et donc cette contrainte environnementale, de la sobriété, la contrainte même de pas tirer sur l'humain, etc. Bah voilà, ça fait inventer des trucs qui font du bien à tout le monde.
Ouais. Ok, ça me va. Bah, j'aurais bien aimé te rencontrer.
Ouais, moi aussi j'aurais aimé.
C'est quoi un peu les plus grosses difficultés, soit que tu rencontres, soit que tu as pu rencontrer, ces derniers mois ou ces dernières années. Et c'est quoi les plus beaux succès, là pour le coup, chez Gobim, tu peux nous parler des succès dans ta vie, hein, mais en tout cas pour revenir au projet.
Les plus grosses difficultés, je pense que c'est quand même vraiment dur quand t'es entrepreneur, cette incertitude financière. Les premières années, pour nous, ça a été dur. Enfin, tu vois, t'as les deux premières années où tu potentiellement t'as réussi à faire, à avoir un peu de chômage et donc voilà, tu t'es ok pour renoncer à une partie de ton confort matériel. Après, quand t'as 30 et quelques, que t'as des enfants et que tu sais pas si tu vas avoir suffisamment de chiffre d'affaires dans les 3-4 mois qui viennent pour te payer, t'as tendance à payer tes fournisseurs avant toi, tes équipes avant toi. Souvent, moi j'en parle souvent avec des copains qui interviennent plutôt, par exemple en défense de salariés dans des grands groupes. Je leur dis, mais il y a quand même un tissu économique constitué de PME avec des patrons, patronnes qui sont les dernières roues du carrosse dans leur boîte, quoi. Donc ça, c'est franchement, c'est dur. Ouais. Ça, je trouve ça vraiment dur. Moi, les années où c'était très dur, j'ai continué à faire du conseil. J'ai eu cette chance qu'on vienne me chercher. Je me suis dit, voilà, je comprends que ce soit aussi pour ça potentiellement que parfois ce soit intéressant de faire une levée de fonds pour. Voilà, je pense que ça met oui et non à l'abri parce que ça met une autre forme de pression, etc. Mais voilà, je trouve que le plus dur quand on est entrepreneur, c'est ça parce que parce que le moment où ta boîte arrive à son moment de maturité économique, c'est pas forcément ouais. 2 ans après la fin de ta rupture co, tu vois.
Ouais, c'est clair.
Donc ça c'est quand même c'est dur. Alors après il y a certainement des gens qui entreprennent et qui sont rentiers, mais là pour moi c'est pas du jeu en fait, tu vois. Donc ça c'est dur.
Ouais.
Et ce que j'ai trouvé dur aussi, ça a été l'apprentissage des RH. On a eu une crise d'associés, ça c'est hyper dur, mais ça, je rentrerai pas dans les détails, mais et après tout ce qui est RH, c'est-à-dire les premiers recrutements, quand tu sais pas non plus quelle est vraiment ta culture d'entreprise, quand t'as été habitué à tout faire toi-même, quand les premiers profils qui rentrent sont des profils un peu touche-à-tout, qui sont formidables au début, et puis quand tu structures, ces gens-là qui trouvent plus leur place, et moi ça me rendait malheureuse, donc aux chausse-pieds j'essayais de trouver les trucs. Et en fait, bon, c'est une page qui se tourne, il y a des gens qui ont vécu un truc bien, qui les a armés pour d'autres choses. Et voilà, de se dire aussi que les premières personnes que t'embauches, elles vont peut-être pas forcément faire les 10 prochaines années avec toi, alors que toi, t'as ce rapport d'entrepreneur à ta boîte où t'as l'impression que c'est une aventure collective et en fait, c'est pas la même. Enfin, voilà, tout ça, j'ai trouvé ça dur. Moi, je suis une grosse sensible, donc... voilà, mais du coup en avançant, c'est aussi ça qui te fait mûrir en fait, et de débriefer aussi avec les gens qui s'en vont sans amertume. Mais ça c'est dur aussi de pas le prendre perso. Ça va, on est humain quoi, quand même. Il part, tu te fais plaquer quoi. En gros, c'est dur.
Ouais, c'est
quoi.
Ça. C'est
hyper dur. Bah oui,
mais bon, c'était pas pour la vie. Bah oui, mais quand même.
Ah, c'est ça. Et voilà, et petit à petit, tu comprends que il y a une culture d'entreprise qui se décrète pas, mais qui existe, et tu comprends ce qui est important pour toi, pour les autres dans la boîte. Et donc, tu crées des processus de recrutement un peu différents, qui font intervenir plus de monde. Tu poses quelques questions un peu perso pour voir si la personne fit. Voilà, et parce que après c'est pas grave en fait si elle est super, mais que je sais pas, nous par exemple c'est des questions stupides, mais je dis voilà, si t'es quelqu'un qui aime bien cancaner, être très cynique, faire tout le temps du mauvais esprit, parce que ça va pas marcher en fait, ça nous fatigue, voilà, et au fond de toi tu le sais si t'aimes bien faire ça.
Ouais, c'est clair.
Voilà, et il y a des endroits où c'est un sport national et tu vas t'éclater, va là-bas, tu vois.
Ouais.
Bon, bref.
Ok. Et tes plus gros succès, ou même les plus gros succès que vous avez eu, soit toi, rétrospectivement, ou que tu penses que Gobi a pu avoir, ou le plus gros succès?
Honnêtement, je pense le moment où on est devenu rentable,
c'est,
je trouve, une immense satisfaction. Moi, je trouve que ça prouve aussi... Après, j'ai rien contre les modèles où il faut lever des fonds au départ, et c'est, je pense que ça peut te permettre d'aller plus vite, et voilà. Donc c'est pas non plus un truc par rapport auquel je ferme la porte sur les années à venir, mais en tout cas quand on y arrive comme ça en bootstrap, ça te permet quand même de valider qu'il y a un marché pour ton produit, qu'il y a une réponse aussi du marché à ta proposition de valeur avec tout ce qu'on justement on a pu mettre dans ces valeurs. Je trouve que ça c'est quand même hyper important. Donc voilà, le moment où on est devenu rentable, c'est aussi pour moi une façon de se dire on n'est pas complètement dingue. Il y avait un marché, on a réussi à le créer, à le faire grandir, et en plus à ce que ça paye 3-4 salaires le même jour du mois. Ça a été un espèce d'achievement dingue aussi, tu vois.
Quand tu verses les premiers salaires.
Ouais, et quand nous on a réussi à se rémunérer aussi de la même somme à la même date tous les mois, honnêtement, ça pour moi en termes de charge mentale, voilà, c'est des petits gros succès personnels. Ouais. Évidemment, nous, il y a eu 2015, la COP21, on a équipé tout le monde, c'était magique quoi, parce que rétrospectivement c'était encore très tôt par rapport à ce sujet. Aucun événement international n'avait fait le pari de mettre les participants et en plus des dirigeants à l'eau du robinet. Et on le voit toujours encore peu aujourd'hui. Donc, c'était dingue. Et puis, pour les personnes en situation de handicap, là, les AT, notre équipe, qui savait qu'elle préparait, il y avait des cartons ONU partout. Enfin, c'était trop beau comme aventure collective, quoi. Et après d'avoir, il y a des vidéos au moment où, tu sais, Fabius tape en disant, il est en larmes et tout, il dit l'accord de Paris, tu vas plus chialer comme moi, vient d'être entériné. Et là, on voit des petites silhouettes de Gobi sur certains trucs. Et là, c'est trop beau. Enfin, vois, déjà, moi, je t'ai renversée, mais en plus de participer avec ma petite histoire à la grande histoire, c'était incroyable, quoi. Voilà.
C'est génial.
Et là, je trouve aussi, Après 2 ans un peu de turbulences, où il y a eu le Covid, beaucoup de turbulences RH, parce qu'on passait un cap. Je trouve, voilà, mes grands bonheurs, là, c'est la fluidité qu'on a dans l'équipe, le plaisir que je vois les gens avoir à travailler les uns avec les autres.
Une forme de stabilité aussi, enfin, du coup,
D'harmonie.
Ouais, d'harmonie, ouais.
Ah ouais, ça, c'est un grand succès, ouais.
Génial. Bah, il y a une question que je voulais te poser, mais je crois qu'on y a un peu répondu. Enfin, tu y as un peu répondu. C'est si tu te croisais au début de cette aventure, quel conseil tu te donnerais? Je sais pas si tu donnerais des conseils différents à toi ou à l'entrepreneur que tu aurais croisé, le chef d'entreprise, mais...
Ouais, on a eu, je pense, un sujet de répartition des rôles. Je pense qu'on n'a pas, on s'est pas assez impliqué avec mon autre associé actuel dans les sujets plus de comptabilité, compta analytique, gestion financière. Moi, j'avais l'impression, mais alors je pense que c'est un peu genré aussi, mais de pas, tu vois que c'était pas mon truc.
Ouais.
En fait, j'adore.
Ah ouais.
Ouais, parce que je trouve que c'est un outil essentiel.
Ouais.
Totalement clé, et du coup avec Sam on est devenu des dingos de la compta analytique, on suit tout hyper bien et ça nous permet de prendre des choix, d'anticiper, et du coup ça nous enlève beaucoup de stress, ça nous permet de participer, d'expliquer aussi parfois aux équipes pourquoi bah non, il faut qu'on repousse une embauche de tant de mois, etc., avec des choses très simples. Donc ça, je me dirais de m'intéresser beaucoup plus à ce sujet qui, en plus, va me passionner.
Donc s'intéresser plus à la compta analytique, c'est ça?
Ouais. Et aux stratégies financières. Ouais. Et voilà, un BP, c'est pas qu'un Excel fastidieux, en fait.
Ouais.
Après, j'ai la chance d'avoir un associé, moi, qui est très pragmatique et qui adore faire des tableaux avec 1000 entrées. Ouais. Et après, on joue avec tous les deux.
Et toi, t'ajoutes à ça la vision stratégique, du coup, c'est ça
que j'adore après, jouer avec les chiffres, etc. Moi, j'adore faire avec ce qu'on a.
Ouais.
Ça, c'est, je suis bonne à ça, tu vois. Donc, ok, on a moins que ce qu'on pensait, ou on a, si on a plus, c'est rare. tu vois, j'aime bien ça, quoi.
Ouais.
Optimiser et puis anticiper, aller voir le banquier pour lui dire est-ce qu'on peut se rallonger de 2 ans, la remboursement, parce que sinon tatata et tout. Ça, c'est une partie stratégique qu'il faut pas négliger et qui, voilà.
Ok.
Je dirais ça.
Ouais, pas mal. Surtout quand on sait que t'as beaucoup de boîtes qui s'arrêtent, TPE, PME, peu importe, pour des problèmes de mauvaise gestion, en fait.
Et je dirais ce qu'on m'a dit, ce que je redis à tous mes potes qui montent des boîtes, si vous avez encore un peu des missions en freelance ou que vous pouvez encore un peu bosser en free pour vos anciennes boîtes, c'est pas grave que ça vous ralentisse un peu sur le début. Sécurisez-vous financièrement, mettez un max de côté, coupez pas tout de suite avec votre réseau parce que dans 6 mois, ça sera plus dur d'aller faire un peu de free. Voilà, moi, quelqu'un m'avait dit, il y a aussi une écologie de projet, c'est-à-dire, il va falloir que tu acceptes de donner le temps à ton projet d'arriver à sa maturité économique de façon écologique, c'est-à-dire, avec le temps nécessaire. Et pendant ce temps, trouve le moyen de lui offrir ce temps, un peu comme avec tes enfants qui peuvent pas grandir et s'autonomiser d'un coup. Et je trouve que c'est vrai, en fait.
Ouais. Le slow entrepreneuriat aussi, c'est des nouvelles, enfin, voilà, comment tu prends le temps, c'est des nouveaux termes, moi, que j'ai appris, mais comment tu prends le temps, toi, en tant qu'entrepreneur, mais aussi dans la construction de ton entreprise, on y va étape par étape, on se précipite pas, et ça rejoint un petit peu ce que tu dis, quoi.
Ouais, parce que tu peux te cramer en deux, en fait,
hein. Puis tu t'épuises, en plus.
La peur de pas se rémunérer, c'est affreux.
Ouais.
C'est vraiment dur. Et puis l'épuisement, c'est dommage, quoi.
Ouais. Ça fait pas avancer, quoi.
Ouais.
Ok, et ben on va finir avec une dernière question. À moins que tu aies encore plein de choses à nous raconter, mais donc tu as 2 enfants. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire aux enfants de tes enfants, donc à tes petits-enfants? Une soirée, tu les as face à toi. Qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire de ton aventure?
J'espère que j'aurai transmis à mes enfants le fait de cultiver leur flamme intérieure, leur intuition. On doit tous sortir de placard, tu vois. Moi, j'ai plein de potes gays. Ils m'ont vachement aidée, je pense, quand j'avais une 20aine d'années, parce qu'ils ont eu à faire ce truc de l'affirmation d'aller vers soi pour pas en mourir, de pas être soi-même, en fait. Et je pense que on a tous, de par notre éducation, on suit un chemin et on sait pas très bien ce qui est toi, ce qui est pas toi. Et si on s'écoute vraiment dans nos petites peurs, dans nos petites angoisses, dans nos petits machins, etc., on arrive à bifurquer. Là, c'est un mot à la mode, mais et donc il faut cultiver ça, ce qu'on ressent de notre place dans le monde, de ce qu'on a à faire, et d'y aller. Et en fait, ouais, bien sûr, c'est risqué, tout ça, c'est pas tous les jours facile. Mais en fait, à partir du moment où on s'est lancé, les choses se réorganisent, se restructurent, etc. Donc, je trouve que le plus important, c'est ça, c'est d'être, de vivre vraiment sa vie. On en a qu'une, elle est courte. Mm. Certains pensent qu'on en a plusieurs, mais moi, pour le moment, je ne suis pas sûre. Donc, je me dis déjà, faisons bien ouais. celle-là. Voilà, je leur dirais ça, de cultiver, c'est ce que je m'astreins à faire aussi par rapport à mon éco-anxiété, mais de cultiver de la joie, de l'optimisme, parce que je leur dois, en fait. C'est ce que je leur dois le plus ouais. fort, je pense, après les avoir mis au monde dans ce monde-là. Et donc, j'espère que c'est... Voilà, de cultiver ouais. ça, son chemin, sa flamme, son intuition, sa joie, son optimisme, son... Ouais, son amour, son... C'est, enfin, ouais, ouais. Choose love, quoi.
Et toi, c'est ton... Ouais, et toi, l'aventure que tu vis aujourd'hui avec Gobi, c'est ça, quoi.
Ouais, je suis alignée, mais mes enfants, ils comprennent très bien ce que je fais. Ils adorent.
Bah ça, c'est rare.
C'est trop bien, tu vois. Ils dessinent des gobies, ils en voient dans la rue, ils comprennent que je suis plutôt dans un truc qui fait du bien à la planète. Ouais. Donc ça les fait kiffer.
Ouais, c'est clair.
Ils voient que je suis indépendante, que j'ai ouais. trouvé mon truc. Ouais, donc ça, c'est bien ça, ouais. Cool. J'espère.
Cool. Bah écoute, merci. Pour tout ça, merci de t'être confiée, d'avoir partagé un peu cette historique et nous parler de ça. Je pense que c'est inspirant, c'est rassurant aussi, je trouve, et à la fois hyper stimulant. Moi, bon, évidemment, en tant qu'entrepreneur, aussi, je pense vis-à-vis des projets qu'on mène et qu'on porte. Tu vois, on répète, nous, à tue-tête, garde en tête la mission, à quoi ça sert. Enfin, et en fait, là, c'est ce que t'as dit quand tu questionnais l'utilité. Donc, merci. J'ai vraiment beaucoup aimé cette conversation. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais rajouter avant qu'on arrête de se parler.
Non, je m'étais demandé si tu allais me poser la question sur laquelle je bug tout le temps. Est-ce que vous auriez à recommander un livre ou un truc comme
ça? Eh ben, écoute, non. On a décidé avec Brio qu'on poserait pas cette question.
Mais... Et je bug à chaque fois parce que je me dis, tu vois, dans tout ce que tu lis et que ouais. tu lis à moitié, etc., je suis toujours. Ouais.
Non, écoute, mais tu vois, ça me donne très envie de te la poser.
Et du coup, j'avais préparé en me disant cette fois, je vais pas bugger.
Bah, vas-y.
Non, voilà. Et je viens de finir un bouquin de Lorraine Bastide qui s'appelle Futur, comment le féminisme sauvera le monde. Et je trouve que ouais, si on peut finir là-dessus, de se dire que pour moi, il y a une vraie convergence de ces sujets
ouais.
entre le féminisme, les questions de justice sociale et d'écologie, évidemment, de sortir de systèmes de domination qui font du mal à tout le monde. Donc voilà, je recommanderais très chaudement la lecture de son livre.
Très bien. Bah, je le mettrai en commentaire. Bah, on finira là-dessus, du coup. Merci beaucoup, Florence. Bonne reprise au retour des vacances.
Merci.
Et bonne continuation et longue continuation à Gobi. Et merci à toutes et tous d'être arrivés au bout de cet épisode. Et à très bientôt, tout le monde.
Merci beaucoup.